Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Vous le savez, 26 minutes de face à face en compagnie de celles et ceux qui font l'actualité des séries. On va s'intéresser à l'une des plus longues séries télé américaines de prime time. On en parle dans un instant, mais d'abord ce petit générique que vous connaissez forcément. Et voilà, on va parler d'une série américaine, donc Les Simpsons, dont la 37e saison vient de commencer, je crois, sur Disney+, et qui a déjà été re-signée jusqu'à la 40e, à l'occasion de la sortie d'un livre chez Playlist Society, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel, signé Romain Digita. Bonjour Romain.
Bonjour
Ça
Alexandre.
va?
Bah ça va très bien, merci pour l'invitation.
Mais je suis ravi de te recevoir, l'une des plus longues séries télé américaines de prime time.
La plus longue,
la plus
la
longue
plus longue de prime time
aux États-Unis.
Aux États-Unis évidemment, les séries de daytime que vous connaissez bien comme Amour, Gloire et Beauté, Les Feux de l'amour et autres font plus long. Il y a quelques programmes d'actualité comme 60 Minutes qui font plus long. Mais en termes de fiction, que ça soit en animation ou en acteur réel, c'est la plus longue du prime time américain de tous les temps.
Et je ne sais pas s'il avait prévu de le caler, mais je vais le dire, je crois que seul Doctor Who l'a dépassé. Il me semble. On doit en être à 40 saisons, je
En
crois.
Grande-Bretagne, non, il y a des séries, des feuilletons comme Coronation Street qui ont fait
Oui,
beaucoup
bien
plus
sûr,
long.
mais.
Voilà, mais pour ce qui est du prime time américain, c'est la plus longue. En acteur réel, c'est Law & Order SVU, New York Unité Spéciale, ouais, vraiment avec des acteurs, mais en animation, et donc toujours confondu en fiction, c'est Les Simpsons.
Aux États-Unis, ça
Aux
cartonne,
États-Unis.
effectivement, et ça ne s'arrête pas puisque la série a déjà été renouvelée pour jusqu'à la saison au moins 40.
40, et il y
Ça...
a un deuxième film qui a même été annoncé, qui
Pour
sortira
2027.
pour 2027. De Paris, il va sortir à l'été 2027, et finalement, ça a été décalé, ça sera septembre.
Alors, ce livre, il sort là le 22 janvier. Les Simpsons, c'est une série qui fait partie de notre quotidien. On a l'impression effectivement que. Alors, les moins de 30, les moins de 40 ans l'ont toujours connue, mais on l'a tous connue cette série finalement. Elle a toujours fait partie de nous.
Bah, c'est un peu ça que j'ai voulu raconter dans ce livre-là, c'est comment se fait-il qu'une telle série déjà dure depuis aussi longtemps, déjà ça c'est déjà un exploit, et que tout le monde la connaisse, même ceux qui ne la regardent pas. Je crois que si on parle les Simpsons, les petits bonhommes jaunes, Homer, ça dit que vous en parliez à votre grand-mère, à votre tante, à votre oncle, à votre petit cousin, tout le monde en a entendu parler. Et moi j'ai encore réalisé ça quand je commence à parler maintenant du livre autour de moi, quand des fois il y a des gens qui m'ont vu signer les premiers exemplaires pour les envoyer à des gens comme
Eh
vous.
ben oui, voilà.
Et il y a quelqu'un qui passait par là qui dit, mais c'est quoi ce livre? Je lui dis, bah, c'est un livre sur les Simpsons. Ah bon, les Simpsons, ah, c'est génial. Enfin, on sent que quand on parle des Simpsons, tout de suite, ça éveille une espèce d'étincelle chez tout le monde. C'est assez dingue.
C'est une sitcom ou pas? Est-ce qu'on peut la ranger dans la catégorie des sitcoms? C'est une grande tradition de la sitcom familiale américaine, mais est-ce qu'on peut la ranger dans la catégorie des sitcoms, des comédies de situation?
Bah, c'est de la comédie d'animation. Ça, c'est certain. Oui, moi, je la mettrais dans la même catégorie que les sitcoms, parce que sitcom aux États-Unis, c'est pas du tout un terme péjoratif comme ça a pu l'être très longtemps en France. Aux États-Unis, les sitcoms, c'est des séries comme The Office, comme Friends, comme Seinfeld. Donc oui, ça rentre clairement dans ce format-là pour plusieurs raisons. Déjà, c'est diffusé en prime time, exactement comme toutes ces séries-là. Et avant les Simpsons, il y a eu très peu de séries d'animation qui étaient utilisées en prime time. L'une des rares, c'était dans les années 60, c'était Les Pierres à Feu.
Ouais.
Et c'est une des grandes inspirations des Simpsons, parce que Les Pierres à Feu, c'est aussi la vie d'une famille moyenne, mais à l'époque préhistorique. Mais on sent que c'est un pastiche de l'époque des années 60,
Les
avec le
Flintstones.
les Flintstones en VO, avec le père bah, qui porte une cravate, qui rentre avec sa mallette le soir, qui dit bonjour à sa femme, bonjour à ses enfants. Et puis aussi, dans l'équipe d'écriture des Simpsons, dans les scénaristes, en fait, beaucoup ont fait leur classe place non pas dans l'animation, mais dans l'écriture des sitcoms. Sam Simon, qui était le showrunner des 3-4 premières saisons, qui est vraiment celui qui a défini les Simpsons tels qu'on les connaît aujourd'hui, même si Matt Groening a créé les personnages. C'est quelque chose que j'explique aussi dans le bouquin, c'est le fait qu'il y a eu Matt Groening, puis le cinéaste James L. Brooks et Sam Simon comme showrunner qui ont vraiment, on va dire, poli tout ça, raffiné tout ça. Et Sam Simon, il vient d'où? Il vient de la sitcom classique en acteur réel. Il a notamment travaillé sur Cheers, sur les 4 premières saisons de Cheers, qui est l'une des icônes de la sitcom aux États-Unis qu'on connaît un petit peu moins.
Aussi, il me semble. Il a travaillé sur des séries, non? Il me semble. Il
a James L. Brooks, il a commencé même par là avec des séries comme Mary Tyler Moore, etc. Mais c'est vrai qu'il était déjà passé au cinéma au moment où il fait où il produit les Simpsons, et c'est Sam Simon qui apporte cette écriture proprement dite, le côté showrunner, le côté gag qu'il a eu sur Cheers, la série avec Ted Danson, qu'on peut revoir sur Paramount+, sur Pluto TV, okay. Sinon vous la connaissez pas.
Une petite merveille, et qui a eu une série dérivée qui s'appelait Frasier. On va voir apparaître peut-être des photos des Simpsons, parce que c'est vrai que cette identité, voilà, dès qu'ils apparaissent, ça claque, on les repère automatiquement.
Bah, c'était fait pour.
Il y a effectivement cette couleur jaune, mais il y a aussi les couleurs de cheveux de marge qui transgresse sur ce caractère là il fallait qu'on les repère tout de suite, quoi.
Bah, c'était l'idée en fait, non pas de Matt Groening, parce qu'en fait Matt Groening, avant les Simpsons, il n'a jamais travaillé à la télé. Il faisait des comic strips, notamment Life in Hell, qui c'est des aventures assez transgressives de lapin. Et en fait, quand les Simpsons est créé pour la télévision, c'est lui qui imagine les personnages, le fait que c'est une famille qui se dispute, etc. Mais l'animation, il connaît rien. Donc tout ça est confié à un studio d'animation. Et c'est une des coloristes de ce studio qui s'appelait, qui s'appelle toujours, parce qu'elle est toujours vivante, Georgie Peluche. C'est son vrai nom, ne vous moquez pas.
Pas du tout, vous voyez.
Il s'est dit, il faut mettre des. Pareil, le ton est tellement différent, il faut des couleurs différentes. Donc elle a proposé ce jaune pour la peau. Et quand ça a été proposé à Matt Groening, quand on lui a fait valider, parce qu'il devait quand même donner son avis, lui s'est dit, tiens, le jaune, c'est une bonne idée, parce que quand les gens vont zapper de chaîne en chaîne, ils vont tomber sur ces personnages jaunes, et ça va forcément les interpeller. Donc c'est comme ça, finalement, qu'est née cette couleur si caractéristique des Simpsons.
Et la petite mèche.
Et la petite mèche.
La petite mèche, je ne sais pas si les gens ont vu, mais il y a cette petite mèche sur le côté, au-dessus de l'oreille de Homer,
et
qui est le M de Matt Groening.
C'est le M de Matt.
Et il voulait faire le G, non, je crois.
Il voulait faire le G pour l'oreille, mais c'était un peu trop compliqué, donc ils n'ont pas gardé ça. Mais c'est vrai que les personnages tels qu'on les voit là sur cette illustration, c'est tel qu'on les connaît maintenant depuis une trentaine d'années. Mais si on revoit les tout premiers épisodes qui étaient des courts, des épisodes de 30 secondes qui étaient dans une série
sketch. Vous savez quoi?
Vous les avez.
Regardez une petite vidéo, un petit teaser, c'est assez rapide, vous allez voir. Mais à quoi ça ressemblait avant que ça arrive, évidemment, sur la Fox dans une série proprement parlée. Voici un petit teaser de ce programme qui existait aux États-Unis. Regardez.
The secret's out. There's no safe place to hide. Because Fox has 5 reasons not to leave the house Sunday night. Meet Bart, Lisa, their little sister Maggie, Mom, and Dad. It's the Simpsons. And you'll only find them on the Tracy Ullman Show tonight.
Le Tracy Ullman Show, je crois qu'il commence en 1987, il me semble.
C'est ça.
Amusant, parce que c'est la même année que le lancement de Marié deux enfants, je crois, aux États-Unis sur la Fox, il me semble.
Bah, Tracy Ullman, c'est aussi sur la Fox. Fox, qui est à l'époque le petit nouveau, le nouveau network qui doit concurrencer les chaînes historiques comme ABC, CBS.
C'est arrivé en 84 de mémoire, hein, c'est ça, il me semble. Avec le Miami Vice, il me semble. On n'est pas dans ces eaux-là.
Miami Vice, c'est sur NBC.
C'est sur NBC, pardon.
C'est Brandon Tartikoff qui voulait.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais il me semble que ça arrive vers le milieu des années 80.
Ça arrive 86-87. Donc, c'est vraiment la chaîne démarre à peine. Et il leur faut des programmes différents. C'est vraiment, là aussi, c'est un peu comme l'histoire de la couleur dont on parlait tout à l'heure. Il faut se différencier des autres. Donc, ils lancent en effet Marié deux enfants, qui est une version de la sitcom familiale extrêmement transgressive et carrément trash. Ils ont une série policière comme 21 Jump Street, qui est là aussi très différente de ce qu'on peut voir sur les autres chaînes. Et donc, il y a cette émission à sketch, Tracy Ullman Show. Tracy Ullman, qui est une humoriste britannique, qu'on connaît un petit peu parce qu'on la voit maintenant en guest, notamment on l'a vu dans Larry et son nombril, elle a joué dans certains des films de John Waters. C'est vrai que son émission à sketch, elle, n'a pas traversé l'Atlantique. Et si on s'en souvient, c'est surtout parce que c'est là-dedans que sont nés les Simpsons.
Avec des traits plus pointus, plus...
Un peu plus brouillon.
Un peu plus brouillon, ouais.
Un peu plus... Et c'est le style de Matt Groening au départ. Et c'est vrai qu'une fois que le Tracy Ullman Show s'arrête et que la Fox décide de transformer ses petits cours de 30 secondes en des véritables épisodes pour remplir les cases d'une demi-heure, en fait 21 minutes avec la pub, Ben là, au niveau technique, le studio d'animation a dit on peut plus continuer ce style brouillon, il faut un style un peu plus raffiné, un peu plus défini, surtout pour pouvoir correspondre avec le studio d'animation qui est en Corée du Sud. Parce que pour les petits épisodes, c'était entièrement animé aux États-Unis, mais pour les épisodes longs, ben c'est sous-traité en Corée du Sud parce que ben, ça coûte moins cher. Donc les grandes étapes de la réalisation, les images clés sont toujours faites aux États-Unis et tout le reste est fait en Corée du Sud. Et pour ça, il fallait un cahier des charges, en quelque sorte, des personnages. Et c'est les animateurs de la série, c'est pas Matt Groening lui-même, qui vont définir vraiment très précisément le look de chaque personnage jusqu'au nombre de pointes sur la tête de Lisa ou de Bart. Donc voilà, c'est vraiment ceux qu'on voit derrière nous.
Très arrondi, beaucoup plus jovial. On l'a vu dans le teaser de Tracy Ullman, tous nos personnages, ils ressemblent à ce qu'on les connaît encore aujourd'hui en saison 37. Ils vieillissent pas, les Simpsons ?
Ils ne vieillissent jamais. Ils vivent vraiment dans une boucle temporelle, le fameux donut dont je parle dans le livre, puisque...
D'où le symbole bah, de
c'est le ruban de Moebius que le graphiste Lucien Bexo, qui fait les couves de tous les bouquins de Play Society, vraiment, il fait un boulot formidable, bah, il a adapté le donut à ce ruban de Moebius. Si on regarde bien en fait, les épisodes, c'est toujours la même année scolaire. Bart est toujours en CE...
Quelle vie !
Il a toujours 10 ans, il est toujours en CE2, pareil pour tous les autres personnages. Et on se rend compte que même dès les premières saisons, il y a un épisode avec les vacances d'été, donc on se dit que l'année scolaire est différente. Et en fait, l'épisode suivant, bah, c'est à nouveau l'année d'école la même. À tel point qu'il y a un épisode récent qui soi-disant devait être le dernier épisode de la série et tout le suspense réside dans le fait que bah, Bart ne veut pas souffler sa bougie d'anniversaire parce que s'il souffle sa bougie d'anniversaire ça rompt cette boucle. Donc en effet les personnages ne bougent pas.
Il y a pas mal d'Halloween dans la série
et pourtant il y a quand même Halloween tous les ans, pourtant il y a quand même les évolutions technologiques et l'apparition d'internet, des téléphones portables, des intelligences artificielles, etc. Mais on a ces personnages qui ne bougent pas, qui sont toujours habillés pareil, qui ne prennent pas d'années. Homer ne maigrit pas, ou alors s'il maigrit, bah, l'épisode d'après, il retrouve son poids. On a un reset à chaque épisode. Le 400e épisode, tous les personnages, ou 500e, pardon, tous les personnages quittent Springfield. Mais tous les habitants de Springfield quittent la ville, sauf le proviseur Skinner que personne n'a prévenu. Et à la fin de l'épisode, ils sont tous contents d'être allés ailleurs. Et dès l'épisode suivant, bah, ils sont tous de retour à Springfield sans aucune explication. Ça, c'est une espèce de suspension d'incrédulité que seule l'animation peut se permettre. Et je pense, enfin, pour moi, c'est l'une des raisons, l'une des clés de la longévité des Simpsons, c'est que non seulement ça permet toutes les possibilités scénaristiques, on peut tout se permettre dans chaque épisode, mais aussi ça veut dire qu'on peut tout rediffuser à tout moment, on peut regarder les épisodes dans le désordre le plus complet, et ça sera toujours aussi savoureux et toujours aussi pertinent.
Ceci dit, pendant très longtemps, la plupart des séries, même de prime time, il y avait cette espèce de continuité dans la durée qui faisait qu'on pouvait les prendre dans n'importe quel sens sans...
Hormis le vieillissement des personnages. Voilà. Là, les personnages ne vieillissent pas parce que c'est de l'animation. À la limite, on pourrait imaginer une série d'animation malgré tout dont les personnages vieilliraient, mais ça n'est pas le cas, tout comme dans South Park où les petits gamins ont toujours le même âge qu'au début de la série, il y a plus de 25 ans. C'est ça qui fait que bah, aujourd'hui, quand on parle des Simpsons, que tout le monde connaît, oui, Bart, le petit garçon énervant, son père Homer, etc. Bah oui, bah, c'est toujours ça. Vous branchez sur les Simpsons dès demain, bah, vous retrouverez la série dont vous vous souveniez déjà il y a 25 ans, dont vous avez entendu parler. C'est toujours là, c'est toujours la même chose.
Ceci dit, si je pense à un dessin animé japonais comme One Piece, j'ai pas l'impression que le fil ait pris 25 ans entre la première et la saison d'aujourd'hui. Donc il y a cette continuité-là.
Sauf que dans One Piece, il y a une continuité dans les intrigues et c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de prendre la série dans n'importe quel ordre, de prendre un épisode au hasard si vous ne connaissez pas l'univers de One Piece. Avec une série comme les Simpsons dont les intrigues sont bouclées, c'est beaucoup plus simple.
Tout à l'heure, on parlait de cette inscription des Simpsons dans ce patrimoine télé américain. Alors, les Simpsons, c'est quoi? C'est plutôt les traditionnels sitcoms familiales des années 60, 50-60, papa, maman à la maison, les enfants et tout ça qui regardent la télévision, donc des séries plutôt sages, ou est-ce que c'est plutôt All in the Family, dans les années 70, dont on a beaucoup parlé avec Rob Reiner, ou encore Marier deux enfants, c'est-à-dire ce côté très transgressif, ou est-ce que c'est les deux à la fois?
Bah, c'est une satire de ces séries des années 60, les Father Knows Best, les Honeymooners, les Leave It to Beaver, ce genre de choses-là. Honeymooners, c'était déjà un peu plus transgressif que les autres. Mais en tout cas, oui, c'était où on peut se souvenir de Cher Oncle Bill, qu'on a vu en France, ou même Ma Sorcière Bien-Aimée. Donc en fait, on est dans la satire de ce type de séries-là, qui sont les séries avec lesquelles ont grandi les premiers scénaristes des Simpsons, notamment Matt Groening au premier chef. Et en effet, on s'inscrit un peu dans ce qu'on fait All in the Family, puis Marier deux enfants qui arrivent au même moment. Mais en fait, le fait d'avoir mélangé les deux fait que les personnages sont beaucoup plus attachants. Pour moi, Marier deux enfants, c'est très très drôle, c'est très transgressif, mais il n'y a pas du tout...
Il y a une distance qui se crée au bout d'un moment.
Voilà, il n'y a pas du tout le côté tendresse qu'on peut avoir malgré tout avec Marge et Homer.
Même quand il étrangle Bart.
Même quand il étrangle Bart. Mais il y a plusieurs épisodes où Homer et Marge sont à deux doigts de se séparer, ça fend le cœur. Alors que finalement, avec les Bundy, on s'en fiche un peu parce qu'on voit qu'ils se détestent déjà en permanence.
Puis ils ont le nom d'un tueur en série, ce qui n'aide pas non plus à s'attacher,
s'attacher
à eux.
Donc on a ce côté à la fois satire et malgré tout, ces personnages qui nous tiennent à cœur, qui font toutes les bêtises, mais finalement tout rentre dans l'ordre à la fin de chaque épisode. On pourrait dire, si on se fait l'avocat du diable, qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'ils ont réuni le meilleur des deux mondes.
Alors dans l'une des raisons du succès en France, notamment des Simpsons, il y a un couple rencontré sur le tournage, sur le doublage des Simpsons, c'est Philippe Pétieux et Véronique Augereau, voilà, qui sont là, qui signent la préface d'ailleurs du livre.
Ils ont fait ce très grand plaisir.
C'est quand même vachement bien.
Je les remercie encore, je les ai remerciés mille fois, ouais. Mais je continue à les remercier. Ce sont non seulement des comédiens, comédiens tout court, pas seulement comédiens pour la post-synchro, mais comédiens tout court, des comédiens talentueux et des personnes absolument adorables.
Ils sont fantastiques. Ouais.
Donc,
je les embrasse aussi, ils sont venus régulièrement et c'est des gens formidables.
Et je les remercie encore parce qu'ils m'ont signé cette préface dans laquelle vraiment ils expliquent à quel point cette série compte pour eux et a compté pour eux et aussi le retour du public qu'ils ont au fil des ans, au fil des décennies. Là aussi, ça rejoint ce que j'essaye de raconter dans ce livre-là, pas uniquement ce qu'était la série à son départ, mais ce qu'elle est devenue presque 40 ans après. Et c'est aussi eux, l'évolution qu'ils ont vue avec des gens qui les croisent dans la rue, qui leur disent moi je regarde ça depuis que je suis gamin, j'ai fait découvrir ça à mes enfants. C'est une série qui est pour moi un repère, voire un doudou. Donc je pense qu'ils ont vraiment mis le doigt sur l'une des raisons du succès de la série en France. Et je trouve, à titre personnel, que pour une série d'animation,
ouais,
l'adaptation et les voix sont encore plus importantes. C'est vraiment l'une
c'est
des choses...
qui crée l'identité des personnages.
Ouais, c'est vraiment à ça qu'on s'attache. C'est peut-être un petit peu moins le cas, en tout cas, en ce qui me concerne, sur des séries ou des films en acteurs réels, quel que soit le talent des gens qui font la post-synchro derrière. Mais sur l'animation, c'est vraiment eux qui donnent vie aux personnages. Et voilà, ils le font brillamment depuis tant d'années.
Depuis 37 ans maintenant, 37 saisons, et ils continuent de le faire, malgré, évidemment, les disparitions ici ou là de certains des comédiens. Et vous le savez, évidemment, quand on naît la voix d'un personnage français de série ou de dessin animé, certains ont du mal parfois à faire la différence entre les deux. Et ça a donné l'idée à quelqu'un de signer un formidable court-métrage il y a déjà une dizaine d'années, que je vous invite à redécouvrir sur le web, qui s'appelle Being Homer Simpson, dans laquelle Arnaud de sa mère joue un fan de Homer, à qui il va jeter un sort. Et regardez ce que ça donne, un petit extrait de Being Homer Simpson. Regardez.
T'aimes pas ça, faire Homer Simpson? Tu vas voir, mais tu vas adorer. De toute façon, t'auras pas le choix, connard.
Ça va, monsieur?
On a essayé de le retenir, désolé. On n'a pas trop compris ce qu'il vous a fait. Il vous a tapé où?
Non, c'est beau, j'ai rien. Il m'a frappé nulle part, il m'a juste poussé.
Pourquoi vous parlez comme ça?
Pourquoi je parle comment? Oh, punaise! Mais... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4...
Qu'est-ce que vous faites?
Mais je peux plus parler autrement!
Voilà, formidable court-métrage qui commence au Virgin Megastore des Champs-Élysées pour une séance de dédicace et qui se termine, et bien vous verrez comment. Mais voilà, il y a plein de guests et ça montre effectivement le rapprochement et le parallèle qu'il y a entre le public et ces voix finalement qui sont si emblématiques dans l'animation ou dans les séries.
Oui, c'est des choses dont on se souvient tous, surtout pour les séries qu'on pouvait voir dans les années 80-90, où on n'avait pas forcément accès à la VO. C'est vrai que maintenant, avec les plateformes et les DVD, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, on se souvient tous du doublage de Starsky Hutch ou d'autres séries comme ça.
De Dallas.
De Dallas et autres. Même si, après, en découvrant la VO, on se rend compte que des fois, les dialogues français n'étaient pas toujours très fidèles. Mais ça, c'est...
Et là, par contre... C'est fidèle.
Là, c'est fidèle. D'ailleurs, l'adaptation du texte a toujours été très très fine pour les Simpsons depuis le début, parce que c'est super compliqué d'adapter une série dans laquelle il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de références. Donc c'est vrai que le travail sur les Simpsons fait partie des meilleurs travaux d'adaptation qu'on ait pu connaître en France.
On va voir apparaître une photo parce qu'on l'a cité un petit peu tout à l'heure, mais c'est l'un des... Voilà, l'un des...
Les descendants.
Des descendants ouais. des Simpsons. South Park, je crois qu'ils en sont autour de 25 ou 26 saisons, il me semble.
Bientôt, même à la 30e. Ça commence en 97, si je ne dis pas de bêtises.
On va arriver à la 30e saison. On va arriver à la 30e saison. Alors, c'est un paradoxe en ce moment aux États-Unis, à la télévision américaine. À la fois, il y a une espèce de turnover rapidos des séries qui se fait. Et en même temps, on sent que quand les chaînes sont attachées à une marque bien précise, elles ont vraiment du mal à les laisser partir. On le voit dans les séries live. Elles dépassent pendant très longtemps. Il y a très peu de séries qui passaient les 20 saisons. Maintenant, elles sont très nombreuses. Est-ce que les Simpsons, South Park, c'est des séries qui peuvent s'arrêter?
Bah, je pense qu'elles s'arrêteront le jour où leur créateur, producteur, showrunner décideront d'arrêter ou bah, devront arrêter malgré eux parce que bah, ils disparaîtront, ce qui est notre lot à tous. Je pense que même dans les Simpsons...
Ou les voix principales.
Ou les voix principales, voilà. C'est là où je voulais en venir parce que sur South Park, c'est aussi les créateurs qui font les voix. Mais voilà, le jour où Trey Parker et Matt Stone voudront arrêter parce que soit ils seront plus inspirés, soit bah, ils décéderont, je pense que personne ne pourra prendre la relève. Pour les Simpsons, je pense que là, vraiment, l'obstacle principal, je pense que ça sera les voix originales de Marge et Homer. On voit que tous les comédiens qui sont morts dans les Simpsons n'ont jamais été remplacés. Pour l'instant, ça ne concerne que des personnages secondaires, notamment bah, l'institutrice pardon, de Bart, Madame Krabappel, qui n'a pas été remplacée suite au décès de l'actrice. Donc le jour où Julie Kavner ou Dan Castellaneta passeront l'arme à gauche, je pense que ça sera peut-être le moment où aux États-Unis décideront d'arrêter la série, parce que la mort de Matt Groening, ça changera. En vérité, pas grand-chose, parce qu'il n'a jamais été le showrunner de la série. Le showrunner actuel, c'est Al Jean, qui est là quasiment depuis la première saison, même s'il a fait des allers-retours.
Il connaît.
Il y a eu d'autres personnes entre-temps, donc il pourrait très bien avoir des successeurs, notamment bah, maintenant, il est même co-showrunner avec Matt Selman. Donc ça posera pas trop de problèmes. Mais oui, je pense que c'est vraiment les voix américaines. On pourrait se dire, pour un dessin animé, c'est pas grave, finalement, une voix, ça se remplace, les gens font pas la différence. Je pense que oui, les gens feront la différence. D'ailleurs, à tel point que l'un des comédiens, en Casaria, qui fait certaines des voix principales de la série, dit lui-même que lorsqu'il y a eu des grèves de ces comédiens qui demandaient des augmentations de salaire pour réclamer un peu leur part du succès de la série, il dit « mais s'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre qui pouvait nous imiter et le payer moins cher, ils l'auraient fait depuis longtemps ». Et jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. Donc ça prouve bien qu'ils n'arrivent pas à les remplacer. La grande question, c'est pourraient-ils les remplacer par l'IA ?
Par l'IA, voilà.
A priori, je ne pense pas qu'ils aient donné l'autorisation, tous ces comédiens-là. C'était même l'une des grandes revendications de la
grève de 2023.
Les rêves des comédiens. Voilà, moi, j'ai peut-être cette impression que ça sera le moment où ils arrêteront, en tout cas, ils arrêteront les Simpsons sous la forme telle qu'on la connaît. Je pense que les personnages eux-mêmes sont tellement populaires que forcément ils continueront à être présents d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça sera via uniquement des films événementiels une fois de temps en temps, via des mini-épisodes sur les réseaux sociaux?
Ou une adaptation live.
Adaptation live, ça serait très, très, très compliqué. Quoique, il y a eu une pub en Grande-Bretagne pour le bouquet Satellite Sky qui annonçait l'arrivée des Simpsons sur le bouquet Satellite. Et pour faire la pub, en fait, ils ont refait le générique en live avec des comédiens. C'est assez chouette de voir ça. C'est très bien réalisé. Mais vraiment, faire un épisode complet, là, ça me semble assez compliqué.
Donc, comment on fait dans une télévision qui est à ce point scrutée par les réseaux sociaux et dans une Amérique qui a quand même tendance, à l'heure de Trump, de se refermer sur elle, comment on continue d'avoir ce côté satirique, voire transgressif que l'on aime dans South Park, mais aussi, surtout, dans les Simpsons?
Bah déjà, justement, vous citez South Park. South Park sert un peu de paratonnerre parce qu'eux, ils y vont vraiment à fond sur l'actualité chaude, ce que fait moins les Simpsons, et c'est aussi l'une des raisons de leur côté intemporel. Ensuite, la série est peut-être un petit peu moins scrutée qu'avant. Il y a eu une époque où il y avait vraiment un jeu de ping-pong avec George Bush père, vraiment quand la série était vraiment au début de sa gloire. Aujourd'hui, même si elle fonctionne toujours, c'est pas non plus la grande époque. Et le dernier point important, c'est que quand James L. Brooks, le producteur de la série, a signé au départ avec la chaîne Fox pour lancer la série, donc il y a 37 ans, lui aussi était au fait de sa gloire, il venait de remporter des Oscars, etc. Et donc, il a pu avoir une clause qui, à l'époque, était inédite et l'est encore aujourd'hui, c'est que bah, la chaîne n'avait pas son mot à dire, aucune note de la part de la chaîne, donc une liberté totale pour la série, liberté qu'ils ont toujours aujourd'hui. Donc, je pense que c'est encore l'aura de James L. Brooks qui protège les Simpsons.
Et qui va les protéger, on espère, évidemment, très très longtemps. En attendant, pour comprendre un peu mieux le succès de cette série, et surtout pour la voir s'inscrire dans un patrimoine télé américain, ce qui fait du bien de constater que la télé ne s'est pas arrêtée en 1990, ou n'a pas commencé en 1990, vous allez lire ce livre qui sort une nouvelle fois chez Playlist Society, Les Simpsons ou le paradoxe du donut intemporel, un nouvel essai signé Romain Nigita. Voilà, vous allez prendre du plaisir à redécouvrir l'histoire des Simpsons, et surtout dans un format qui est accessible effectivement à tout le monde. C'est ça la particularité de ces collections chez Playlist. C'est que tout le monde peut se plonger dans ces séries-là, même si on les connaît pas.
C'est des bouquins qui sont volontairement brefs, mais pas trop, avec un angle bien défini. On n'est pas sur une grande encyclopédie, même si j'ai rien contre les encyclopédies. Donc oui, bah moi je peux que vous conseiller de l'acheter, évidemment.
Évidemment, précipitez-vous, ça sort le 22, et on était ravis effectivement de pouvoir d'abord en parler, et puis surtout pouvoir parler des Simpsons, dont la 37e saison vient de commencer sur Disney+. Et c'est bien parce que ça permet quand même, même si on peut les voir dans le désordre, de rester au fait de ce qui se fait en ce moment. Parce que c'est vrai que les multiples rediffusions par salve sur W9, c'est un peu compliqué de savoir à quelle saison on a vraiment affaire.
Non, vous avez tout dans l'ordre sur Disney+. Sinon, vous avez même les coffrets DVD des 20 premières saisons.
C'est bien aussi,
parce qu'il y a plein de bonus et les commentaires audio qui, sur tous les épisodes, qui sont assez formidables.
Voilà, on embrasse évidemment Philippe Pétieux et Véronique Augereau qui accompagnent les voix des Simpsons et qui accompagnent la sortie de ce livre aussi. Merci Romain.
Mais merci d'avoir été avec toi. Et merci encore à Véronique et Philippe.
Ah ouais, parce que c'est vraiment des gens formidables et qui font un travail super. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour le club et très vite la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la loi des séries. Merci à tous et merci à Maxime qui était à la réalisation. Salut à tous.